Frères et sœurs, nous allons célébrer aujourd'hui, au cœur de cette Eucharistie, le sacrement des malades. Qu'est-ce que c'est que ce sacrement des malades? C'est l'occasion pour nous de nous unir au Christ dans sa passion, alors que nous sommes affrontés à l'épreuve de la maladie et de la maladie sévère, de la maladie qui a ébranlé fortement nos forces vitales, que ce soit d'ailleurs nos forces vitales physiques. Imagine une personne dont on découvre qu'elle a un cancer, que les forces vitales psychiques aussi, quelqu'un qui souffrirait d'une grave dépression qui a été diagnostiquée. Le sacrement des malades nous unit au Christ qui entre dans sa passion pour que le Christ soit notre force. C'est la première chose, le premier point. Unis au Christ pour que lui soit notre force. Lui qui a connu la souffrance du corps et de l'âme. Lui qui a connu la souffrance du corps et de l'âme et ne s'est pas effondré. Alors que nous sentons que nos forces vitales nous lâchent, nous demandons la force du Christ pour traverser ce temps avec lui, qu'il soit notre force. La deuxième chose, à travers ce sacrement, c'est que nous nous unissons au Christ qui est passé de la mort à la vie. Il est ressuscité d'entre les morts. Celui qui était mort est vivant. Et donc c'est un sacrement, pas simplement pour la guérison, mais c'est aussi un sacrement qui est demandé pour la vie éternelle. Un sacrement pour la vie éternelle. Il y a donc un soin qui est demandé à la grâce de l'Esprit-Saint pour le corps, mais aussi pour notre âme. Il y a une dimension de purification des péchés dans ce sacrement. Seigneur, prépare aussi mon être à la vie éternelle, en particulier en purifiant mon âme. Et puis il y a un troisième point. Un troisième point, c'est que c'est autour de la fécondité. Comment ça? Généralement, quand on est malade, on se dit, j'ai moins de force, j'ai moins de capacité de concentration, ce que j'arrivais à faire, j'y arrive plus. Et donc, on peut regarder sa vie et se dire, mais finalement, depuis que je suis malade, je suis devenu stérile, je n'ai plus d'utilité, j'ai plus de fécondité. Aux yeux du monde, c'est ce qui se passe souvent. On essaie de dire, les malades sont improductifs. On se demande à quoi, entre guillemets, peuvent-ils servir. Le sacrement des malades vient nous révéler quelque chose. Il nous est possible, en nous unissant à Jésus, d'offrir l'épreuve de la maladie qui est sur nos épaules pour qu'elle soit unie à la passion rédemptrice de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous est donné la possibilité à cette souffrance qui est là, elle est déjà là. A priori, j'allais dire, elle ne sert à rien. Elle est juste un manque de santé, de la maladie comme un manque de santé par rapport justement à la bonne santé. A priori, ce n'est qu'un manque, mais il nous est possible de dire, Seigneur, cette épreuve, cette souffrance qui est là, plutôt qu'elle ne serve, entre guillemets, à rien, je veux te l'offrir. Je veux l'unir à ta passion parce que je sais que, à travers cet acte d'offrande, cet acte d'amour, toi, tu peux en faire jaillir un fruit. Là où il n'y avait pas de fécondité, tu peux en mettre une par ta présence et permettre que cette souffrance que je remets entre tes mains, elle porte un fruit de foi, un fruit de courage, un fruit d'espérance pour quelqu'un. Vous voyez, cette chose extraordinaire, c'est par sa mort et sa résurrection, par sa passion que le Christ nous a sauvés et il nous donne à travers ce sacrement de pouvoir offrir l'épreuve que nous vivons pour que cette épreuve justement porte un fruit avec sa croix, un fruit de vie, un fruit de courage, un fruit d'espérance. Alors dans notre prière, en particulier la prière de Rosario, d'Odette, de Bernadette, de Marie et d'Emmanuel qui vont recevoir ce sacrement dans un instant, vous pouvez aussi émettre ce souhait au Seigneur, si ça peut porter un fruit tout particulièrement pour un tel ou un tel qui est cher à mon cœur. Vous avez le droit de formuler ceci, de souffler au Seigneur l'un ou l'autre personne, et en même temps, vous lui dites, Seigneur, tu sais mieux que moi. Donc s'il y a mieux à faire, tu peux, mais voilà, je t'ai soufflé cela, je pensais à eux en particulier. Mais il y a une grâce de fécondité qui est rendue présente par ce sacrement, par la présence de Jésus. Et puis, quatrième point, on prend conscience à travers ce sacrement que c'est une grâce qu'on reçoit, mais pas simplement pour nous. Quand on reçoit un sacrement, on le reçoit en fait pour tout le corps du Christ, pour toute l'Église. Vous voyez, je prends une image toute simple. Quand je soulève cette feuille, là je la prends par le coin gauche, je l'ai peut-être prise par le coin gauche, mais c'est toute la feuille qui a été soulevée, qui a profité, j'allais dire, de ce que j'ai saisi le coin gauche. Quand quelqu'un reçoit le sacrement des malades, c'est bien par telle personne ou telle autre personne, mais c'est tout le corps de l'Église qui bénéficie de cette grâce, d'une grâce de vie à travers cette personne. On ne reçoit jamais une grâce de la vie de Dieu simplement pour nous-mêmes. Cette grâce bénéficie à tout le corps. Donc voilà ce qui se réalise à travers ce sacrement des malades. Sacrement de force, sacrement en vue de la vie, sacrement qui permet de trouver une fécondité étonnante, puisque uni à la passion de Jésus, sacrement aussi qui est reçu, pas simplement pour nous, mais pour toute l'Église. Vous voyez, ça nous amène à une certaine responsabilité lorsque nous sommes en état de recevoir ce sacrement, parce que les circonstances de la vie font que c'est maintenant que je dois le recevoir. Parce que certains, j'allais dire, se censurent en se disant « Oh non, j'ai pas le droit de prier pour moi-même, il faut que je prie pour les autres ». Et donc ils n'osent pas demander ce sacrement de vie, alors que le corps de l'Église tout entier en bénéficierait s'ils demandaient à le recevoir. Donc n'hésitez pas, si vous vous posez la question, à aller voir un prêtre pour le discerner. Parce que si c'est le bon moment pour le recevoir, c'est tout le corps de l'Église qui en bénéficiera. Donc on voit ceci, cette grâce qui se produit comment ? Parce que le Christ va agir en nous. On est unis tout particulièrement à la vie du Christ qui entre dans sa passion. Et c'est parce qu'il est lui agissant en nous que vient notre espérance. Alors, comment est-ce que ça va être possible ? Parce que le Christ agit en nous. Et ce même principe, l'action du Christ en nous, elle est au cœur de l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore vivants. Là, oui, ça bouge encore, quelques-uns en tout cas. Parce que l'évangile qu'on a entendu, peut-être que vous dites, eh ben, tiens, c'est assez raide aujourd'hui. Il nous dit, pas commettre de mœurs, ça j'avais entendu, mais quand tu insultes ton frère, tu seras passible du jugement, tu le traites de fou, de la gêne, de l'enfer. Si tu regardes quelqu'un avec convoitise, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Oh là là, mais quelle exigence ! Quelle exigence que Jésus nous dit ! Et ça peut être, j'allais dire, quasi paralysant. J'aurais mieux fait de rater cet évangile, comme ça j'aurais pu dire que « Ah ben je l'avais jamais entendu, c'est dommage ». Non, on l'a entendu, il a été proclamé, et pourtant c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Il s'agit parfois de repréciser ça. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Souvenons-nous de ce qu'on a déjà dit ces dimanches passés, celui qui prononce les béatitudes et qui vit les béatitudes, c'est Jésus. Les béatitudes, c'est quand même assez étonnant, mais qui peut les vivre ? Ben honnêtement, personne, si ce n'est Jésus. Les béatitudes, c'est Jésus qui les vit, et justement, il vient les vivre dans notre humanité. Donc il fait deux choses. Premièrement, il nous indique le chemin. Quel est le chemin de la vie ? Quel est le chemin qui nous permet d'arriver à la vie, d'arriver au paradis ? Comment est-ce qu'on arrive au paradis ? Comment est-ce qu'on arrive à la pureté de cœur qui nous permet de vivre avec Dieu et avec tous ceux qui sont en communion avec lui ? Parce que vivre au paradis, c'est être en communion pas seulement avec le Christ, mais aussi avec mes frères et sœurs qui y sont. Et si avec eux, je dis, le Christ, je veux bien, mais toi, je veux pas. Et s'il est au paradis et que je veux pas être avec lui, ah ben j'aurai un autre endroit. J'aurai un autre endroit, mais qui cet endroit, il s'appelle l'enfer. Ça nous semble parfois plus simple. Ah oui, c'est plus à ma mesure. De fait, l'exigence du Christ, elle est immense et on se dit, mais si c'est mes seules forces, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est désespérant d'entendre ça. Mais voilà que le cœur des béatitudes, justement, c'est d'apprendre, un, à trouver le chemin. Parce que si je sais pas le chemin, je vais me perdre. Parce que je vais pas aller dans la bonne direction. Mais vous savez que parfois, il faut pas seulement le chemin, il faut un guide. Il faut un guide qui nous accompagne. Si vous avez fait certaines randonnées en montagne, vous savez qu'il ne suffit pas simplement qu'on ait des panneaux, il faut qu'on ait un guide parce qu'il nous apprend à marcher, il nous apprend à savoir où faire les pauses, il nous apprend aussi à nous reposer parfois. Il nous faut un guide. Il ne faut pas seulement la carte du chemin, il faut aussi un guide. Et c'est ce qu'est Jésus. Il est celui qui nous donne le chemin sans lequel nous nous perdrions. Nous sommes appelés à la sainteté, vraiment, à la plénitude de la sainteté. Le Seigneur ne nous regarde pas en disant, « Toi, tu es appelé à la sainteté. Toi, oh non, non, une demi-sainteté. Toi, oh là là, encore moins, un quart, mais pas plus. » Non, à chacun, nous recevons cette promesse, cet appel à la sainteté, à la plénitude de la sainteté. Mais comment est-ce que c'est possible ? Parce que nous accueillons justement la vie de Dieu, que nous le prenons comme guide, et que nous le prenons comme guide au cœur même de notre existence. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai, sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu viens et que tu nous donnes la grâce d'unir notre vie à la tienne. Tu nous fais la grâce d'unir ta vie à la nôtre. C'est ça le cœur de la vie chrétienne. Ça demande un renoncement de celui qui veut dire « je vais faire ça tout seul ». Et j'allais dire, d'une certaine manière, si Jésus ne nous dévoilait pas la plénitude de l'exigence de la sainteté, on pourrait avoir cette illusion. Je vais le faire tout seul. Seigneur, ne t'occupe de rien, je me charge de tout, et je reviens te voir quand je suis parfait. Ça ne va pas marcher, ça. Le Seigneur nous montre ce chemin pour que nous ne faisions pas cette erreur, nous fassions pas cette erreur de penser y arriver tout seul, mais que c'est avec lui. Seigneur, qui peut être sauvé ? À l'homme, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et Dieu a voulu unir sa vie à la nôtre. Alors je voudrais que, en cette Eucharistie, il y ait un acte de foi que nous fassions chacun. Que nous gardions cette parole, « Seigneur, tu peux tout, même me rendre saint. » Je voudrais même que vous nous répétions ensemble cette parole. Seigneur, tu peux tout, même me rendre saint. Encore une fois, Seigneur, tu peux tout, même me rendre saint. Je vous le fais dire tous ensemble pour que nous puissions ouvrir notre cœur à cette grâce de l'Esprit, avoir la foi que ce chemin de sainteté nous est offert et est possible, et que c'est une bonne nouvelle. Nous sommes trop souvent comme justement celui qui a pris ce chemin de montagne sans se le guide et qui a l'impression justement d'être perdu et d'avoir fait le mauvais choix. Il n'aurait pas dû s'engager sur ce chemin. Ce chemin est le bon, mais nous avons un guide. Invitons-le dans notre vie, ayons confiance qu'avec lui, ce qui nous semble impossible, ce qui nous semble une mauvaise idée, pas à la mesure humaine, devient à la mesure de l'humanité véritable, celle qui est remplie de Dieu. Seigneur, je crois que tout est possible à toi, même de me rendre saint. Amen.